On va parler des Éphésiens aujourd'hui. J'aimerais commencer ce message en méditant sur les paroles de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens. C'est en fait le premier message d'une série de messages que j'aimerais apporter sur ce livre. À la place de faire des prédications juste thématiques, et où on choisit le texte des fois en fonction, où on se laisse inspirer par un texte et passer d'un texte à l'autre, un petit peu ce défi de parcourir ce livre des Éphésiens. Alors il y aura d'autres prédicateurs entre-temps, donc voilà, vous n'aurez pas que des Éphésiens, à part si peut-être d'autres prédicateurs dans cette salle se laissent défier aussi pour voilà, poursuivre aussi cette série. Alors dans le livre des Éphésiens, l'apôtre Paul montre comment voilà, cette grâce de Dieu en Christ donne à l'Église aussi le pouvoir de mener une vie chrétienne de base dans un monde qui est brisé, un monde qui a vraiment besoin de Dieu. Et les profonds exposés de Paul sur la grâce, cette grâce qui est époustouflante, qui nous surprend, qui nous dépasse aussi, eh bien, nous donne aussi des implications pratiques pour notre vie, fournissent à nous, chrétiens, des implications pratiques, d'innombrables raisons de méditer cet épître. Pas juste une partie du texte, pas juste ces versets 1 à 14, mais toute cette lettre. Et les Éphésiens sont un trésor de grâce de Dieu. Et Paul commence cet épître en savourant les bénédictions incroyables de Dieu pour ceux qui sont en Christ. Et l'apôtre, emprisonné, invite le lecteur de sa lettre à revenir sur l'œuvre de Dieu dans le passé. Et le but de ce retour en arrière, c'est d'explorer la profondeur de la grâce, la puissance de la grâce. Cette grâce qui élit, qui sanctifie, qui aime, qui adopte, qui rachète, qui pardonne, qui révèle, qui unit. Et cette grâce qui dure et perdure. Dieu nous donne ses dons pour notre joie et tout simplement pour sa gloire. Alors, je vous encourage à lire cette petite lettre de Paul aux Éphésiens. Paul soupire tant après le fait que ses lecteurs se tiennent dans l'émerveillement face aux bénédictions qu'on a en Christ. Il était en prison lorsqu'il a écrit cette lettre et il nous donne des pistes incroyables pour notre vie d'aujourd'hui encore, même si ça a été écrit il y a 2000 ans passés. Il y a 2000 ans, il prie afin que nos cœurs soient ouverts à l'espérance, à l'héritage, à la grandeur, à la puissance de Dieu envers ceux qui reçoivent ces dons de grâce. Les Éphésiens expliquent aussi comment la grâce de Dieu dynamise notre recherche de la sainteté personnelle. Les Éphésiens expliquent aussi comment la grâce de Dieu transforme nos relations interpersonnelles par le pardon, par la délivrance de l'amertume et toutes ces choses. On voit ça au fil des chapitres. La grâce de Dieu crée l'Église, une communauté remplie du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste un club, comme un club de foot ou autre, mais c'est vraiment une communauté remplie d'esprit dont les membres sont unis par ce lien de l'amour, par ce lien de la paix, par ce lien tout simplement qu'on trouve en Jésus. Et cette unité d'amour conduit à des relations dans l'Église où on chante la vérité, où on se soumet aussi les uns aux autres par respect, pas par respect pour les personnes, mais par respect pour le Christ. Et ça change lorsqu'on est dans cet état d'esprit. Ce n'est pas parce que les personnes sont juste dignes d'être respectées, mais c'est parce que on respecte les commandements du Christ et on va dans ce sens. Et cette grâce transforme le cercle familial et on y lit aussi que le mariage est censé être une image de l'Évangile et de la grâce de Dieu. Un mari doit aimer sa femme. La femme aussi doit avoir des attitudes aussi. Et tout cela, on le verra, je ne vais pas empiéter sur mes prochains messages. Il doit être prêt à donner sa vie pour le bien éternel de son épouse, un mari. Et l'épouse doit aussi avoir des façons de vivre. Nos églises et en fait le monde bénéficient grandement ou bénéficierait grandement du type de mariage sain et évangélique dont on entend parler dans les Éphésiens. Il y a beaucoup de choses qui sont notées. On y reviendra certainement une prochaine fois. Ce n'est pas tout de suite, vu que ça vient bien plus tard dans les Éphésiens. Paul parle également des relations parents-enfants. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, explique comment la grâce de Dieu transforme notre relation avec le monde qui est brisée. Paul enseigne aussi eh bien, qu'on est dans une guerre spirituelle et qu'on est appelé à revêtir une armure nécessaire pour pouvoir lutter contre un royaume démoniaque. Et dans les Éphésiens, Paul démontre aussi comment la compréhension de la grâce de Dieu en Christ donne à l'Église le pouvoir de mener une vie chrétienne dans un monde qui est brisé, qui est en rupture avec les valeurs du royaume de Dieu. Et en mettant en pratique les enseignements des Éphésiens, eh bien, on recherche à la fois la sainteté personnelle et des relations aussi transformées. Et je prie afin que l'Esprit utilise ces prédications que je serai appelé à apporter sur les Éphésiens pour aider notre Église à se tenir debout aussi dans l'émerveillement qu'on a besoin d'avoir face à Dieu et de marcher dans cette puissance de la grâce, parce qu'il y a véritablement une puissance à marcher dans la grâce glorieuse de Dieu en Christ. Alors venons-en au texte d'Éphésiens 1. On y voit déjà dans les deux premiers versets bien qu'on est appelé par Dieu. Dans les deux premiers versets, Paul se présente comme un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Ça signifie que Paul ne s'est pas choisi lui-même pour cette mission, mais il a été appelé, il a été envoyé par Dieu pour accomplir une tâche spécifique. Il a été appelé, envoyé par Dieu, et il a été reconnu aussi par les chrétiens d'Antioche, il a été envoyé aussi, il a été reconnu par les chrétiens de Jérusalem, il ne s'est pas autoproclamé dans un mandat, dans un appel, c'est un appel qui a été reconnu, et alors qu'il était prêt à faire 300 km pour aller persécuter les chrétiens de Damas, là il était sur ce chemin et Dieu l'a appelé à quelque chose d'autre. Dans Éphésiens 1, il est dit eh bien, que Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu aux saints et fidèles en Christ Jésus qui sont à Éphèse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Par la volonté ou par le choix? En grec, on pourrait traduire aussi par la volonté de Dieu ou par le choix de Dieu. Paul s'adresse aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Les saints, ce n'est pas des personnes parfaites ou sans péché, mais simplement des croyants qui ont été sanctifiés par la grâce de Dieu, qui ont été purifiés, qui ont été rachetés par cette grâce de Dieu. Et des croyants qui cherchent à suivre Jésus-Christ de tout leur cœur. Et les fidèles en Christ sont ceux qui ont mis leur foi et leur confiance en Christ comme leur sauveur personnel. Pas dans leur capacité, pas dans je ne sais quoi, mais en Christ. Ma foi, elle est placée pas dans du vent, mais en Christ. Et Paul souhaite ensuite que la grâce et la paix soient données aux Éphésiens, la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce, c'est ce don gratuit, non mérité de Dieu, pour le salut et la vie éternelle. La paix, la tranquillité de l'âme vient de la réconciliation avec Dieu, cette paix. C'est ce shalom aussi qu'on peut inviter, invoquer sur les gens. Et en tant que chrétien, eh bien, on a été appelé aussi par Dieu à une mission spécifique dans notre vie, qu'on soit pasteur, qu'on soit missionnaire, qu'on soit enseignant, qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, qu'on soit étudiant. On a tous un plan à jouer dans l'accomplissement du plan de Dieu pour notre vie, pour l'Église, pour la société. Beaucoup de personnes courent après leurs dons, leurs talents. À quoi est-ce que je suis appelé? C'est quoi mon ministère? Bah déjà, dans ce texte, on voit l'appel. C'est un petit peu comme à la recherche de l'appel perdu. Mais dans ce texte, on voit déjà pas mal de choses par rapport à cet appel sur notre vie. C'est la louange, la gloire de Dieu. On est appelé à glorifier Dieu. Comme Paul, on doit se rappeler que notre appel ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu. On a été choisi, on est envoyé par lui pour accomplir une tâche dans ce monde. On est appelé à connaître, à rechercher sa volonté pour notre vie, à suivre aussi les directives avec fidélité. Alors, on est appelé à se rappeler que la grâce et la paix ne viennent pas de nous-mêmes, mais de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous encourage simplement à méditer sur ces paroles de Paul et à rechercher à connaître la volonté de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. Que cette grâce vous soit donnée, mes frères et sœurs. Que cette paix vous soit accordée. On va poursuivre avec les versets 3 à 14, ce chapitre des Éphésiens, l'apôtre Paul continue à nous rappeler ces époustouflantes bénédictions qu'on a en Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, la lettre de Paul aux Éphésiens contient de nombreux enseignements sur la vie chrétienne, sur la façon dont les croyants devraient vivre leur foi dans ce monde. On est dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. On est déjà un petit peu, même si on n'est pas encore, dans le royaume de Dieu. Et on est appelé à adopter les valeurs du royaume. Alors je vais lire les versets 3 à 14. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Ça commence bien. C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Pourquoi ? Cherchez votre but, cherchez le ministère que Dieu vous a donné. Verset 6. Pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. Afin que quoi ? Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Pourquoi ? Pour célébrer sa gloire. Je crois qu'il y a véritablement une puissance en célébrant sa gloire. Et bien souvent, Dieu nous parle. Dieu nous répond lorsqu'on célèbre la gloire du Christ. Donc on a vu qu'on est appelé, on est choisi, on est établi. Deuxième chose, on est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. C'est le verset 3. La première partie du chapitre 1 est consacrée à la reconnaissance des nombreuses bénédictions que Dieu a accordées aux croyants en Christ. On est encouragé à rendre grâce à Dieu pour ses bénédictions et à vivre dans la joie de notre salut. Et Paul commence sa lettre en bénissant Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Est-ce que vous reconnaissez ces bénédictions ? Paul le faisait. C'est vrai, tout allait merveilleusement bien pour lui. Hôtel 3 étoiles, nourriture à gogo. Ah non, il était en prison, pardon. Il était en prison. Ce n'était pas les prisons avec salle de fitness, menu à choix, et télévision et jeux vidéo et que sais-je. Oh, c'est jamais le Club Med, ça pourrait être mieux, mais je pense que les prisons de l'époque devaient être quand même un petit peu chaudes. Mais là, Paul, dans ce contexte-là, il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction. » Ah, pardon, c'est écrit spirituel, pardon. De toute bénédiction spirituelle, pas matérielle. Donc en fait, il se rendait compte que cette bénédiction spirituelle était juste amplement suffisante pour lui. De toute façon, il était en Christ. Encore une chose, verset 4 et suivant, il est dit qu'on a été choisi par Dieu avant la fondation du monde pour être saint, irrépréhensible devant Dieu. Paul souligne que Dieu a prédestiné les croyants à être saints et irréprochables. Waouh ! Ça se corse, hein ? Et c'est dit que c'est conformément à sa volonté aussi, conformément à son choix. Et les chrétiens sont donc appelés à vivre en accord avec la volonté de Dieu et à chercher à être saints et purs dans leur vie quotidienne. Et on a été prédestinés pour ça, dans son amour, pour être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Là encore, un choix de Dieu pour qu'on marche selon l'adoption eh bien, qu'on a reçue, dont on est les bénéficiaires. Oui, on a certainement eu un papa et une maman qui étaient peut-être bien, qui avaient certainement leurs qualités, leurs défauts. Mais finalement, on a le meilleur des papas en commun. Et c'est ce que Paul va dire. C'est ce que Paul va dire. Et le but d'avoir ce père, eh bien, c'est de marcher en conformité avec ce père. Et on a un héritage bien plus que le roi d'Angleterre. Bien meilleur. On a un héritage. Même si son héritage, humainement parlant, sur cette terre, il est plus ou moins bien, quoique moi je ne l'envie pas, mais en tout cas matériellement peut-être, mais spirituellement, je pense que l'héritage qu'on a de notre Papa Céleste, il vaut bien plus. Encore une chose, c'est dit qu'on est ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Au verset 5 et suivant, Paul affirme que Dieu a révélé le mystère de sa volonté aux croyants en Christ, leur donnant la sagesse, l'intelligence nécessaire pour comprendre son plan pour le salut de l'humanité. Et les chrétiens sont encouragés à chercher à comprendre la volonté de Dieu, à mettre en pratique ses enseignements dans leur vie quotidienne. Et en Christ, eh bien, on a été délivrés, on a reçu le pardon de nos péchés, selon la richesse de sa grâce. Et on se souvient eh bien, qu'on a reçu le pardon de nos péchés par la richesse de sa grâce. Dieu a répandu sa grâce abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence encore. Et ce n'est pas la sagesse des hommes. On a été choisis pour connaître le mystère de sa volonté. Et sa volonté, c'est de réunir à la fin toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Est-ce que vous croyez que Dieu veut vous révéler ses mystères ? Amen. Encore une chose qu'on voit au verset 7, c'est qu'on a été racheté par son sang en Christ. On est devenu héritier, prédestiné à la louange de sa gloire. Et le but de cette prédestination, c'est que les croyants puissent célébrer la gloire de Dieu. Il y a une véritable puissance de célébrer la gloire de Dieu. Pas juste de se tourner vers notre nombril et de dire « Seigneur, donne et répond » et il le fait et on a besoin de cette intercession, mais je crois vraiment qu'il y a une puissance lorsqu'on loue le Seigneur, de célébrer la gloire de Dieu, de célébrer son salut, de simplement reconnaître tout ce qu'il a fait, ses merveilles, sa grandeur. Et bien souvent, Dieu nous parle alors qu'on est dans ces temps d'adoration aussi. Qu'on tourne nos cœurs non pas vers ce que Dieu peut nous donner, mais sur ce qu'il nous a donné déjà, dans la reconnaissance, dans l'adoration. Et ces versets peuvent susciter des questions sur la prédestination, des débats théologiques, sur le libre arbitre, mais c'est juste important de comprendre que l'objectif de Paul, c'est de souligner la grâce et la gloire de Dieu, plutôt que de se concentrer sur des détails de la prédestination et de la volonté de Dieu. Juste se tourner vers ce qui est essentiel. Encore une chose qu'on voit dans ce texte, qu'on est devenu héritier et qu'on a été scellé du Saint-Esprit, c'est les versets 11 et suivants. On a été scellé du Saint-Esprit qui a été promis, et Paul souligne l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. L'importance. C'est le sceau de l'héritage qu'on a en Christ. Et les chrétiens sont encouragés simplement à chercher la présence de l'Esprit-Saint dans leur vie et à suivre les conseils et les enseignements que le Saint-Esprit donne. Pas les conseils que Paul, Jacques et Jean sur cette terre, je dis Paul, Jacques et Jean, pas ceux de la Bible, mais ceux qui sont là à vos côtés. Donc juste chercher la présence de l'Esprit-Saint dans leur vie, à suivre les conseils, les enseignements eh bien, que l'Esprit donne. Et Paul encourage les croyants à vivre pour la gloire de Dieu, en servant sa louange et en espérant en Christ. Et c'est pour ça qu'on met aussi l'emphase sur la louange, sur l'adoration. Bah, je crois qu'il y a vraiment une puissance à tourner nos cœurs vers l'essentiel, finalement. Et alors, quand on tourne nos regards vers l'essentiel, des fois, il y a des questions, des problèmes qui prennent moins d'emphase, moins d'ampleur. moins d'importance. Si vous ne savez pas encore pourquoi et pour quel but vous êtes ici sur Terre, considérez à la lumière de ce texte que les chrétiens sont appelés à rechercher à glorifier Dieu dans toute leur action et à vivre leur vie en accord avec les enseignements de l'Évangile. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans ces 14 petits versets, ça dit trois fois qu'on est appelé à célébrer la gloire de Dieu. Trois fois. Je ne sais pas si les enseignants, quand vous corrigez des copies, s'il y a autant de répétitions. Moi, c'était toujours mon problème dans les rédactions et les trucs, c'est qu'il y avait trop de répétitions, semble-t-il. En lisant la Bible, tu vois 14 versets, il y a plein de répétitions. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a besoin que ça rentre un petit peu, de célébrer la gloire de Dieu. Peut-être que ce n'est pas naturel et on a besoin qu'on nous le répète et qu'on tape sous le clou jusqu'à ce qu'il s'enfonce. En conclusion, je vous encourage à méditer simplement les paroles d'apôtre Paul, à vous réjouir des bénédictions incroyables que vous avez en Jésus-Christ. Rappelez-vous que ces bénédictions ne viennent pas de vous-même, mais de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. On pourrait s'enorgueillir, j'ai bien travaillé, j'ai fait ci, je suis fidèle, je suis ceci, je suis ça. Mais ça ne s'appelle plus de la grâce, ça s'appelle du mérite. Ça s'appelle du mérite. Et lorsqu'on considère la grâce dans son sens, ben ce n'est pas quelque chose qui se mérite. Autrement, ce n'est plus de la grâce. Alors, mes frères et sœurs, on est appelés par Dieu. Vous êtes appelés par Dieu. Yes. Vous dites, ouais, Paul, il était appelé comme apôtre et moi, je suis appelé juste à célébrer la gloire de Dieu. Zut. Mais peut-être à bien plus de choses que ça aussi. Bien d'autres choses aussi. Finalement, alors que vous tournez vos cœurs vers le Seigneur, on est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez le dire et le proclamer vraiment en pleine de tout votre cœur ? Je suis béni de toute bénédiction spirituelle. Oui, vous pouvez le dire comme ça, le répéter, parce que je vous le ferai répéter, mais est-ce que votre cœur le dit ? Et si ce n'est pas le cas, peut-être se poser la question, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui cloche ? Pourquoi est-ce que je me sens pas bien, quoi, finalement, spirituellement ? Est-ce qu'il y a quelque chose à recaler ? On a été choisis par Dieu avant la fondation du monde. Ça date, hein, avant la fondation du monde, ça fait vieux quand même. On a été choisis par Dieu avant la fondation du monde pour être saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, en fait, le plan de Dieu, il date et il continue jusque dans l'éternité. Là aussi, c'est très long, l'éternité. On est ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Yes. Les enfants d'adoption, des fils et des filles. On a été rachetés par son sang et on a le pardon de nos péchés. Est-ce que ça vous met en joie ? Ah ouais, je sens une joie très mesurée quand même. Et finalement, on est devenu héritier et on a été scellé du Saint-Esprit. Et c'est une joie qui ne doit pas être tellement profonde qu'il faut une échelle, une corde ou je ne sais pas quoi pour aller la rechercher, mais ça doit se voir. Je crois que lorsque le Saint-Esprit agit en nous, il me semble qu'on n'est pas appelé à avoir des têtes d'enterrement, ni dans une église, ni chez nous. Parce que si vous faites la différence entre les moments où vous êtes dans l'église et les moments où vous êtes chez vous, je ne sais pas l'exemple que vous montrez à votre entourage, mais en tout cas, pas une image de plénitude et de grâce, comme Paul le disait. Et comme je le dis, Paul, il disait qu'il était béni de toute bénédiction spirituelle au fond de sa tôle, quoi. Par la grâce de Dieu, je n'ai jamais été encore mis en prison. J'espère pas que ça se produise. En tout cas, pas pour les mauvaises raisons. Si c'est à cause de l'annonce de l'Évangile, ben, je pense que Dieu me donnera la force de subir, je dirais, cette épreuve. Mais malgré ça, Paul, il se sentait comblé. Et il était capable d'encourager les autres, puis de les booster, puis de leur dire, mais allez, t'es choisi, t'es établi pour aller adorer le Seigneur. Tu te rends compte de ton salut ? Tu te rends compte que t'es un fils ou que t'es une fille de Dieu ? Alors soyons reconnaissants pour sa grâce abondante et cherchons à servir à la louange de sa gloire dans tous les aspects de notre vie. Pas seulement lorsqu'on est sur une estrade pour conduire un temps de louange, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Servir à sa gloire, à sa louange. Et finalement de grandir, grandir dans ses dons, grandir dans ses talents et finalement grandir dans tous les domaines de notre existence. Amen. Ça vous va comme programme ? C'est pas mal les Éphésiens, ça vous donne envie de lire la suite ? Parce que la suite, il y a aussi pas mal de jolis enseignements hein, sur la vie courante, sur comment se comporter dans ce monde qui est quand même compliqué, il faut le dire. Des principes de vie dans tous les domaines. Et c'est un petit peu le programme que je vous donne pour mes prochaines prédications. Souvenons-nous qu'on est appelés. Vous êtes appelés. Pas juste ceux qui ont un appel visible. Paul, il était apôtre, mais il dit finalement, le plus important, c'est pas d'être apôtre, d'être ceci, d'être... Finalement, on est appelé à célébrer la gloire de Dieu. Le fait d'être apôtre en prison, ça lui faisait une belle jambe. Hein. Tu le vois vers les gardiens de prison, puis qui dit, moi, je suis quand même apôtre. Hein. La clé, là, la porte, s'il te plaît. Non. Que nenni, rien du tout, rien du tout. Et finalement, il voyait autre chose. Eh bien, Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous rappelles finalement l'essentiel. L'essentiel dans nos vies. On est tous et toutes appelés, Seigneur, à célébrer la gloire de ton nom, Seigneur. À tourner nos regards vers toi. On est tous et toutes appelés. Seigneur, à venir dans ta présence. Seigneur, merci pour les bénédictions dont je suis, dont nous sommes les bénéficiaires. Et pardon, Seigneur. Seigneur, pour mon ingratitude. Pardon, Seigneur, parce que si souvent, je ne sais même pas voir toutes les bénédictions dont je jouis. Seigneur, je te prie pour moi, c'est certain, mais aussi pour nous tous, dans cette salle, et peut-être ceux qui écouteront plus tard ce message, eh bien, qu'on puisse discerner aussi, Seigneur, l'essentiel. Seigneur, non pas tout ce qui nous manque, mais tout ce que l'on a déjà en toi, Jésus. Toutes ces bénédictions, Jésus. Merci parce que tu nous rappelles encore qu'on n'est pas là par hasard sur cette terre. On n'est pas tombé par hasard sur cette terre, mais on est choisi. Seigneur, on fait partie de ton plan avant même que ce monde n'existe. Et ça aussi, j'ai de la peine à capter, à comprendre. Mais Seigneur, merci pour la puissance qu'il y a dans ces mots. Et je te prie pour chacun d'entre nous qu'on puisse véritablement discerner l'implication aussi pour nos vies, dans nos cœurs, pour notre foi, Seigneur, pour notre comportement. Merci Jésus, parce qu'on est tes enfants, tes fils et tes filles. Merci Seigneur, parce que tu nous as purifiés par ton sang. Merci pour ton sang qui a coulé. Merci Jésus pour ces moments qu'on passe ensemble à t'adorer, à te louer. Et merci Seigneur pour la puissance de ton esprit. Aujourd'hui encore, tu veux nous révéler des mystères. Seigneur, je te prie vraiment de te révéler. Seigneur, à mes frères et sœurs, de te révéler toujours plus à moi, Seigneur, aussi. Seigneur, nous donner ce discernement au travers de ton esprit, Jésus. Discernement de ta volonté. C'est vrai qu'on est dans un monde qui nous dit « il faut faire comme ci, il faut faire comme ça ». Peut-être qu'on est influencé aussi par d'autres personnes qui nous disent « fais comme ci, fais comme ça ». Mais Seigneur, aide-nous à avoir le réflexe de voir aussi, aide-moi à avoir le réflexe de voir ce que me dit ta parole, Seigneur, dans telle ou telle situation. Et Seigneur, surtout, non pas juste de voir ce que ta parole dit, mais d'avoir la foi aussi, de croire que si je mets en pratique cette parole, eh bien, des choses vont bouger. Seigneur, gloire et louange à ton saint nom, pour ta présence dans ces lieux. Merci pour l'action de ton esprit. Amen.